Bonsoir à tous. Le candidat écologiste indépendant l'emporte de justesse en Autriche. Alexander Van der Bellen obtient 50,3% des suffrages devant le candidat de l'extrême droite. Nous serons à Vienne dans un instant avec Ludovic Piétenu pour brosser notamment le portrait du vainqueur. Et puis avec Blaise Gauquelin, nous verrons que ce n'est pas véritablement une défaite pour l'extrême droite. Dans cette édition, les attentats qui viennent d'endeuiller deux fiefs du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ces explosions ont fait plus de 140 morts, analyse d'Éric Biegana. Et puis en France, cette coupe sombre dans le secteur de la recherche, les crédits des laboratoires devraient être amputés de 250 millions d'euros, nous dira Anne-Laure Chouin. 18h20 du Grain à Moudre, avec vous Hervé Gardette.
Peut-on se laisser gouverner par le hasard? Nous en discuterons avec Anouk Barberousse, Pierre-Henri Tavoyot et Gilles Delannoy.
A tout à l'heure. L'Europe retenait son souffle et à Vienne, la tension était à son comble. Il a fallu plusieurs heures pour dépouiller les derniers bulletins de l'élection présidentielle la plus disputée du pays. Et finalement, c'est donc le candidat indépendant, candidat écologiste qui l'emporte. Alexander Van der Bellen est élu à quelques milliers de voix près. Je viens de donner son score, 50,3% des suffrages. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Tara.
Vous êtes à Vienne en direct du palais Schönbourg, qui est un palais privé que le nouveau président autrichien a loué pour l'occasion et où il doit prendre normalement la parole.
Voilà, d'une minute à l'autre, on attend effectivement celui qui prendra les rênes de l'Autriche à partir de la première semaine de juillet pour 6 années. Ça s'est joué à un fil grâce à ses votes par correspondance. 900 000 citoyens autrichiens, un record, avait choisi ce biais. Pour rappel, hier soir, sans le dépouillement de ses voix-là, Norbert Hofer, le candidat du Parti de la Liberté, menait le duel 52% contre 48. Et puis on parlait de 50-50 dès hier soir grâce aux projections des votes par correspondance. Résultat final, vous l'avez dit, 50,3, 31 000 bulletins d'écart seulement sur près de 4 500 000 voix exprimées à 15h20 cet après-midi. Par exemple, selon le site de presse allemand Die Presse, autrichien Die Presse, Norbert Hofer, le candidat du Parti de la Liberté, bénéficie encore d'une avance de quelques milliers de voix.
Alors Ludovic, c'est donc un homme de 72 ans qui arrive à la tête de l'Autriche. En quelques mots, faites-nous le portrait de ce prochain et donc actuel maintenant président, hein, qui est écologiste mais qui se présentait sous une étiquette indépendante.
Oui, c'est parce qu'il est professeur d'économie, on l'a dit, à la retraite, âgé de 72 ans. Il a été jugé trop libéral économiquement parlant par les Verts qui avaient refusé de l'investir. Les Verts où il a pourtant toujours milité, les Verts qu'il a même dirigé ici pendant 11 ans, de 1997 à 2008. Il est vrai, après être venu des Rouges, comme on dit ici, du Parti Social-Démocrate, ce qui explique que ses détracteurs ont souvent décrit Alexander Van der Bellen comme d'une pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il a surtout dû mener campagne au centre et sa candidature était donc officiellement indépendante. C'est un humaniste, un Européen convaincu, un homme austère, sérieux. Lui qui, on l'a vu dans les débats récents de cette campagne, prenait parfois plusieurs longues secondes avant de répondre aux questions, ce qui a parfois surpris. Il a convaincu ici les classes plutôt aisées du pays, les gens des villes, le candidat des femmes aussi, selon les instituts de sondage, soutenus enfin par de nombreux intellectuels.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu, donc en direct de Vienne, où c'est, on l'imagine, pour une partie de la société, un soulagement qui domine en France. En tout cas, Manuel Valls, lui, a fait part de son soulagement. Et François Hollande a chaleureusement, ce sont les termes du communiqué, chaleureusement félicité l'écologiste Alexander Van der Bellen. Pourtant, donc, si c'est une victoire pour ce candidat, l'extrême droite a bien failli se hisser sur le fauteuil présidentiel. Vous l'avez dit, Ludovic, le jeune Norbert Hofer était même donné gagnant hier soir avec 52% des suffrages. Bonsoir Blaise Gauquelin.
Oui, bonsoir Tara.
Vous êtes notre correspondant à Vienne et donc si l'extrême droite échoue ce soir, on ne peut pas vraiment parler d'une défaite pour ce parti, Blaise.
Non, on peut pas parler de défaite, Tara, parce que Hans-Christian Strache, le chef de ce parti, vient de dire à l'instant qu'en fait c'était ex aequo pour les deux partis, et donc l'extrême droite autrichienne ne considère absolument pas qu'elle a perdu, en tout cas à une échelle européenne, hein, l'extrême droite qui a d'autres victoires en vue en Europe, hein, vous le savez. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous imaginiez un petit peu l'ampleur de ce séisme, hein, en Autriche. 61,7%, c'est le score de l'extrême droite à Braunau, qui est la ville natale d'Adolf Hitler, puisque vous savez qu'Adolf Hitler Hitler est né en Autriche. 60% en Carinthie. La Carinthie, c'est l'ancien Land qui avait été gouverné par Jörg Haider, qui avait été ruiné par Jörg Haider, l'ancien chef du FPE. 60%, 3 ans seulement après la fin de la déroute électorale du FPE en Carinthie. C'est un score absolument considérable. Donc l'extrême droite européenne, si vous voulez, regarde ce score avec beaucoup d'appétit pour de prochaines victoires en Europe. Et d'ailleurs, hier, à la fête du FPE, il y avait des représentants de la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, le parti italien nationaliste, qui estime qu'il sera capable, lui aussi en Italie, peut-être bientôt, grâce aux Autrichiens, de convaincre les Italiens que lui aussi peut accéder au pouvoir.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Blaise Gauquelin et Ludovic Piétenu, avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Et puis en France, le Front National félicite Hofer, qui a donc perdu, pour son très beau résultat. En Syrie, où les drames sont pourtant quotidiens depuis le début de la guerre, il y a plus de 4 ans, les attentats commis aujourd'hui frappent par leur ampleur. 148 morts dans une série d'explosions qui ont visé 2 fiefs du régime de Damas. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Ce sont les villes de Tartous et de Jablé qui ont été visées par les terroristes, visiblement des terroristes membres de l'organisation État islamique.
Oui Tara, les djihadistes ont en tout cas revendiqué ce matin, par l'entremise de leur agence de presse Hamak, la série d'attaques ayant visé les deux villes. Les attaques qui ont pris pour cible des rassemblements alaouites, indique ce communiqué. En fait de rassemblements, il s'agissait d'arrêts de bus ou même de l'un des hôpitaux de Tartous. Et c'est l'un des sauveteurs improvisés d'un premier attentat qui a fait exploser sa ceinture d'explosifs une fois dans l'hôpital, selon les informations recueillies par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En tout cas, il n'y avait là aucun objectif militaire ou paramilitaire qui était visé, mais bien des civils. En tout, 7 voitures piégées, dont 5 conduites par des kamikazes et plusieurs kamikazes à pied, porteurs de gilets détonants, ont fait explosion à proximité de ces zones fréquentées par toute une population. Les villes côtières de Jablé, à proximité immédiate de la base où les avions russes sont cantonnés depuis l'automne dernier, et de Tartous, sont à majorité alaouites, à la secte affiliée au chiisme de la famille Al-Assad. Mis à part quelques bombardements ou tirs de roquettes, ces villes n'avaient jusqu'à présent que très peu souffert de la guerre. Une telle attaque terroriste emmenée par au moins 5 kamikazes et visant délibérément des civils du fait de leur religion supposée est en fait une première. Une série d'attentats qui rappelle d'ailleurs, tant dans son modus operandi que dans ses objectifs, se lancer la semaine dernière sur Bagdad, en Irak, par ce même État islamique et qui visait aussi délibérément la population chiite de Bagdad sur des marchés ou des lieux de rassemblement quelconques.
Merci Eric Biegala. Toujours sur le front islamiste, cet assaut très marquant en Irak, les troupes irakiennes viennent de lancer leur offensive contre Fallujah, première ville tombée aux mains de Daesh en janvier 2014, ville située à 50 km seulement de Bagdad. Les combats vont s'annoncer particulièrement acharnés. Cette ville compterait encore 80 000 civils, donc pris au piège de cette attaque. Et puis à Aden, dans le sud du Yémen, 2 attentats signés encore une fois Daesh qui ont frappé des jeunes recrues yéménites dans un centre d'accueil et sur une base militaire. 41 victimes, 41 morts. Arrêtons-nous maintenant sur cette élimination confirmée à la fois côté américain et côté taliban. Élimination du chef des talibans qui a succédé au Mollah Omar. Ce sont les Américains qui ont descendu par une frappe de drone le Mollah Mansour samedi dernier en territoire pakistanais. Comment interpréter cet assassinat d'un leader avec lequel les Américains disaient vouloir discuter? Les États-Unis insistent beaucoup sur cette tentative de dialogue avec leurs ennemis talibans. Et visiblement, le Mollah Mansour y faisait obstacle. Véronique Reberot a sollicité Karim Pakzad, qui est chercheur à l'IRIS.
Après la mort de Mollah Omar, Mollah Mansour a été élu à sa place pour un mandat, à savoir mener à bien les négociations qui étaient déjà commencées. Et il a privilégié vraiment des attentats suicides, des offensives militaires de tout azimut, et il n'a pas compris qu'il a été élu justement pour mener à bien la négociation sous l'égide américaine et chinoise qui avait déjà commencé. Pour résoudre cette guerre en Afghanistan qui dure maintenant depuis plus de 15 ans.
Donc ça veut dire que le Mollah Mansour, ce que vous dites, c'est qu'il n'avait pas bien compris que la situation avait changé dans la région et que finalement on voulait plutôt la paix qu'autre chose.
Oui, en fait, depuis 2 ans, on assiste à plusieurs éléments qui expliquent ce changement. D'abord, la volonté du Pakistan pour finir avec le mouvement des talibans pakistanais. L'armée pakistanaise a cette fois-ci mis les moyens nécessaires pour combattre le mouvement des talibans pakistanais. Et il a réussi, une partie d'entre eux ont été tués, d'autres parties se sont réfugiées en Afghanistan. Et deuxième élément, c'est que finalement, avec l'engagement de la Chine dans les négociations de paix, il y a eu une certaine entente chinoise et américaine, à savoir que les États-Unis sont engagés d'aider le Pakistan, même de lui livrer des avions F-16 qu'il attendait depuis des années, si le Pakistan aide à avancer les négociations. Et mais du côté chinois également, l'Afghanistan, c'est un pays frontalière. D'abord, la Chine a craint la contagion islamiste au Xinjiang chinoise. Et deuxièmement, la Chine a besoin vraiment du sous-sol afghan qui regorge des minerais rares. Tout cela suppose vraiment la paix. Tous ces éléments réunis ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus que jamais la possibilité d'une paix négociée entre l'insurrection et le régime de Kaboul. Et Mollah Massoud n'avait pas compris cela.
Le chercheur Karim Pakzad, interrogé par Véronique Rebérot. La suite de la visite de Manuel Valls en Israël avec ce refus, on pouvait s'y attendre du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre français a vu rejeter sa proposition d'organiser une conférence de paix internationale en France d'ici 15 jours. L'accueil que lui a réservé son homologue israélien n'a pas été très chaleureux. Sur place, Étienne Monin.
Devant Manuel Valls et la presse, Benjamin Netanyahou a non seulement rejeté l'initiative, mais il a aussi en creux demandé aux Français de rester à leur place. Le refus du cadre international est tranché. Le Premier ministre israélien compare cela aux conférences du style ONU qu'il déteste ou aux diktats, dit-il, internationaux. Il répète qu'il est partisan d'un dialogue direct avec l'autorité palestinienne et il y a une place pour la France dans son cadre à lui.
J'apprécierais avec plaisir un autre type d'initiative française. Cette initiative pourrait toujours avoir lieu à Paris parce que ce serait une place magnifique pour signer un accord de paix. On peut toujours l'appeler l'initiative française. Mais voilà la différence. Je serai assis seul, en tête à tête, avec le président Abbas à l'Élysée ou dans n'importe quel endroit que vous choisirez.
En guise de réponse, Manuel Valls indique qu'il en parlera au président de la République. Le Premier ministre français connaît la position des Israéliens depuis longtemps. Elle est compliquée par des négociations de politique interne pour ouvrir la coalition à un parti ultranationaliste. Les derniers pourparlers de paix remontent à 2 ans depuis le désengagement de la diplomatie américaine.
Étienne Monin. En France, le gouvernement se veut confiant, mais l'essence commence à manquer dans des stations, en particulier dans le nord et dans l'ouest de la France. D'après la CGT qui organise ce blocus, 4 raffineries sont à l'arrêt, 2 sont en voie de l'être sur les 8 que compte l'Hexagone. Toujours en cause, la loi travail qui explique ce mouvement, jugé illégitime par le ministre des Finances. À noter que la RATP appelle à une grève illimitée à partir du 2 juin, grève pour les salaires et également contre la loi El Khomri. Le gouvernement prépare le budget 2017, il envoie ses premières lettres de cadrage. Le ministre des Finances annonce un tour de vis. L'éducation et la sécurité devraient mieux s'en sortir que leurs camarades. Les autres ministères se serreront la ceinture. Et dans le monde de la recherche, eh bien, c'est déjà la consternation. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
Il ne s'agit pas des lettres de cadrage d'un futur budget, mais bien d'une annulation de crédit qui doit s'appliquer théoriquement très vite. En commission des Finances mercredi dernier, le gouvernement a en effet présenté un projet de décret qui vise à amputer le secteur de la recherche de 256 millions d'euros. 7 prix Nobel viennent donc de prendre la plume pour s'insurger contre ces coupes sombres qui vont avoir un impact bien réel, Anne-Laure.
Oui, et leurs mots à ces prix Nobel sont violents. Ce décret, s'il est adopté, correspondrait à un suicide scientifique et industriel. Dixit tout de même Jean Jouzel, Françoise Barré-Sinoussi, Claude Cohen-Tanoudji ou encore Cédric Villani. De quoi mettre un peu de pression sur les députés qui devront décider demain en commission des finances s'ils adoptent ou non ce décret. Alors, il faut savoir que la pratique de l'annulation de crédit est fréquente. Elle permet en cours d'année de supprimer tout simplement un crédit ouvert par la loi de finances, souvent pour anticiper un dépassement budgétaire. Mais ce qui fait hurler le monde scientifique, c'est l'ampleur du montant. Alors que la recherche constitue 6% du budget de l'État, elle est touchée par 20% de ses coupes budgétaires. Ce projet d'annulation de crédit porte en effet sur 1,1 milliard d'euros, dont 256 millions, un quart du total, porte sur la recherche et l'enseignement supérieur. Un budget dont les ministres ne cessent par ailleurs de répéter qu'ils sont sanctuarisés. Concrètement, concrètement, c'est l'activité des laboratoires du CNRS, du CEA ou de l'INRA qui auront le plus à perdre, 134 millions d'euros au total, ce qui aura une conséquence immédiate sur le fonctionnement de ces labos, notamment leur masse salariale et leur financement de projets, avec des effets également à craindre d'ici 5 à 10 ans sur le recrutement de chercheurs et de techniciens. On coupe là dans des investissements de long terme, les projets de recherche, pour satisfaire à des exigences de court terme, les clous budgétaires, à rebours de ce que font la plupart des autres pays de l'Union. C'est en tout cas ce que signalent les 7 prix Nobel qui signent cette tribune dans le Monde, en notant au passage que les dépenses de recherche et développement de l'État fédéral allemand ont, eux, augmenté de 75% depuis 10 ans.
Merci Anne-Laure Chouin. En bref, ce pré-rapport de la Cour des comptes que s'est procuré le site internet Mediapart, il porte sur la gestion de l'INA de 2007 à 2014. Dans les extraits publiés par Mediapart, la Cour reprocherait à Mathieu Gallet des remboursements de frais d'hôtel ou de restaurant pour un montant d'un peu plus de 61 000 euros sur presque 2 ans, ainsi que des contrats de conseil en communication qui n'ont pas toujours été assortis d'une mise en concurrence. Mathieu Gallet, qui dirige aujourd'hui Radio France, réagit par l'intermédiaire de son avocat sur le site de Mediapart. Maître Christophe Ingrin rappelle que ce document de la Cour des comptes est provisoire, qu'il est strictement confidentiel. Monsieur Gallet doit répondre par écrit aux observations des magistrats de la Cour. La ministre de la Santé promet un renforcement de la sécurité des volontaires participant à des essais cliniques après le décès d'un homme lors d'un essai de phase 1. C'était à Rennes en janvier dernier. Marisol Touraine avait saisi l'inspection générale des affaires sociales pour tirer les leçons de ce drame et l'IGAS vient de lui rendre son rapport final. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
La ministre annonce un plan d'action qui va même au-delà des recommandations de l'IGAS.
Oui, Marisol Touraine veut améliorer les procédures à l'échelle européenne. Les conditions d'autorisation des essais cliniques doivent être renforcées, l'évaluation et la gestion des accidents graves améliorées. L'Agence européenne du médicament planche sur le sujet. En France, la ministre charge les agences régionales de santé d'inspecter dans l'année tous les centres autorisés à conduire des essais cliniques et elle demande à l'Agence nationale de sécurité du médicament de se réorganiser en créant une cellule dédiée aux essais précoces. Concernant l'essai de Rennes, les laboratoires Bial et Biotrial ont respecté la réglementation en vigueur selon l'IGAS, mais leur responsabilité est engagée. Le choix de la dose de médicaments administrés aux volontaires pose question et Biotrial se voit reprocher son manque de réactivité. Il n'a pas informé immédiatement les autres volontaires, pas suspendu l'essai assez tôt et il n'a prévenu les autorités sanitaires que 4 jours après la première hospitalisation. Marisol Touraine demande une expertise sanitaire indépendante pour faire le point sur l'état de santé des 90 volontaires concernés et elle tape sur la table, exigeant de Biotrial qu'il fournisse sans délai un plan d'action garantissant que les manquements majeurs observés ne pourront pas se reproduire. S'il ne l'a pas fait d'ici un mois, prévient la ministre, son autorisation de lieu de recherche pour essai de phase 1 sera suspendue. Réponse du laboratoire rennais dans un communiqué cinglant. Biotrial n'a pas attendu le rapport de l'IGAS et les recommandations de la ministre de la Santé pour faire de l'amélioration de la prise en charge des volontaires sa priorité. Il indique avoir d'ores et déjà mis en place un plan d'action et s'étonne que Marisol Touraine ne se soit pas renseignée à ce sujet.
Merci beaucoup Aurélie Kiefer. Nous terminons cette édition avec cette question que nous posons depuis ce matin sur France Culture. Comment faire de la politique autrement ? Sujet en collaboration avec le journal La Croix et que vous allez prolonger Hervé Gardette tout de suite dans du grain à moudre. Alors je vous propose de partir pour le petit village de Saillant dans la Drôme, régulièrement cité par exemple par les membres du mouvement Nuit Debout. Dans cette petite commune de 1250 habitants, c'est une liste citoyenne qui a remporté les municipales en 2014 et depuis, eh bien, les élus dirigent le village avec les habitants. C'est un reportage signé Florence Gotchou.
Depuis 2 ans, la majorité applique une gouvernance participative, des projets par et pour les habitants. Le maire, parce qu'il fallait bien en désigner un, la Constitution française ne prévoyant pas de binôme à la tête d'une commune, le maire, donc Vincent Béillard, co-dirige le village avec sa première adjointe Annie Morin. Mais tous les deux se voient plutôt comme les animateurs des débats auxquels peuvent participer les citoyens.
Dans une mairie classique, la participation citoyenne, elle est quasiment nulle. Nous, on est parti du principe qu'on voulait que les projets viennent des citoyens. Et ensuite, nous, on accompagnait, en fin de compte, on sert d'accompagnement de ces projets. Nous, on se réunit toutes les semaines, le jeudi soir, et c'est ouvert au public. Et c'est l'ensemble des élus qui y participent, c'est pas le maire et ses adjoints.
Mais la démocratie participative, ce n'est pas si simple au quotidien. La municipalité admet quelques erreurs avant des ajustements. Il faut aussi être patient, explique Vincent Béillard.
Ouvrir à l'ensemble des citoyens, avec du débat, forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais ce temps est nécessaire à la démocratie, et ça n'enlève pas l'action. Puisque puisque ça permet de construire intelligemment les choses.
L'exemple de Saillant intrigue et suscite la curiosité bien au-delà des frontières de la Drôme. Depuis les municipales de 2014 et l'élection de la liste citoyenne, les appels et messages fleurissent en mairie. Sabine Girard est élue en charge de l'environnement et des questions de gouvernance.
On est très souvent sollicité par des élus, des habitants, des associations qui ont vraiment un besoin de parler d'un nouveau modèle. Et donc on leur a donné, j'ai l'impression, une lueur d'espoir. Pour vous dire, on a été à quasiment 300 sollicitations depuis qu'on est élu.
Beaucoup de médias aussi s'intéressent au modèle de démocratie participative mis en place à Saillant, qui lui donne une certaine caisse de résonance. Et ce qui fait que l'initiative drômoise a beaucoup été citée en exemple par le mouvement Nuit Debout à travers la France. Flatteur pour la petite équipe municipale, mais les élus de Saillant rappellent qu'il n'existe pas un seul modèle. Annie Morin, la première adjointe.
On tâtonne nous aussi, on pense qu'on est dans la bonne direction, mais c'est pas acquis. Je pense qu'il faut plus attendre d'en haut, il faut que chacun se prenne en main. C'est très difficile de donner un exemple vraiment à suivre. On peut s'inspirer et on peut dire aux gens, vous avez droit à la parole, il faut que vous participiez, il faut que vous veniez dans les réunions. C'est votre vie, c'est votre quotidien. On n'a rien inventé, sinon on a modifié le schéma, on a inversé la pyramide tout simplement.
À chacun donc de s'approprier l'expérience menée à Saillant et d'inventer ses méthodes.
Florence Gotcheau de France Bleu, Drôme, Ardèche. Le temps demain de la grisaille sur le nord-ouest. Un ciel plutôt lumineux partout ailleurs. À 22h, ce sera le journal de la rédaction présenté par Stanislas Vazak.